J'ai intitulé mon exposé « La sociologie est toujours critique », mais malheureusement, je crois que ce titre s'est perdu avant d'arriver jusqu'au programme, donc je le redis. La notion de domination, autour de laquelle s'articulent les principales sessions du colloque qui s'ouvre aujourd'hui, occupe en sociologie une place à la fois centrale et périphérique. Centrale parce qu'elle est au cœur de l'œuvre de certains des classiques dont la puissance d'inspiration est toujours vivante, comme en témoigne le nombre de livres et d'articles qui leur sont chaque année consacrés, et particulièrement de celles de Marx et de Max Weber, objets d'interprétation renouvelée. Mais également au cœur de l'œuvre de sociologues contemporains dont l'empreinte a été et est prédominante, comme c'est le cas de Pierre Bourdieu, sans doute le sociologue français aujourd'hui le plus influent à un niveau mondial. Mais on peut dire aussi de la notion de domination qu'elle est périphérique, au moins sous deux rapports. D'une part, sous un rapport simplement quantitatif. Les sociologues qui ne parlent pas de domination ont toujours été plus nombreux que ceux qui invoquent cette notion. Mais elle est surtout périphérique au sens où elle s'inscrit dans un espace conceptuel dont les contours ne sont pas seulement sociologiques et qu'elle s'enracine aussi dans la philosophie politique. Donc domination, État et violence. En utilisant la notion de domination, la sociologie a en effet incorporé et a retraduit dans son propre langage des problèmes qui ont accompagné la philosophie politique, particulièrement quand s'est posée, au sortir des guerres de religion, la question de l'État en tant qu'entité politique placée au-dessus des corps et des communautés et dépositaire d'une autorité susceptible de soustraire les individus à l'arbitraire des dépendances personnelles. Et par conséquent aussi, s'est posée la question des institutions sur lesquelles peut prendre appui cette entité pour revendiquer le monopole de la violence légitime, selon la formule célèbre de Max Weber. Dans ce contexte, la référence à la domination renvoie principalement à deux questions. La première est celle de la distribution du pouvoir entre les individus et les groupes inclus dans l'État, et par contre-coup, celle du degré auquel une certaine autonomie peut leur être accordée. La seconde concerne les disputes entre individus et entre groupes et la façon dont ces disputes peuvent être encadrées de manière à empêcher qu'elles ne conduisent à la violence, c'est-à-dire, dans cette optique, à des formes plus ou moins extrêmes de guerre civile. Pour le dire de façon très schématique, la question de la domination croise celle de la violence, au moins selon trois aspects différents qui sont les uns et les autres liés à la manière dont sont envisagées les institutions et avec elles l'État. Une première problématique, que l'on peut dire obienne, prend appui sur une anthropologie désenchantée. Les personnes, parce qu'elles sont habitées par des désirs concurrents et sans limites, sont condamnées à entrer dans des relations violentes en l'absence d'une autorité susceptible de mettre un frein à des disputes qui opposent des collectifs et dont chacun cherche à assurer sa domination sur les autres. La réponse pose la nécessité de l'État, incarné dans un souverain, qu'il soit ou non individualisé et doté d'un corps propre, comme étant la seule instance placée au-dessus des partis et des factions susceptibles d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais au prix de leur autonomie. Elle peut s'accompagner de théories de la raison d'État, qui concède à l'État une morale spécifique, différente de celle qui prévaut dans les relations civiles, et que l'État est en droit de mettre en œuvre quand il est menacé. On notera toutefois que cette prise en compte de désirs illimités et concurrents est loin d'être ignorée de la sociologie. C'est en effet l'une des prémices de la théorie politique de Durkheim, exprimée de façon particulièrement nette dans sa critique du socialisme, dans le cours qu'il a consacré au socialisme. Cela même si la solution que Durkheim lui apporte, celle de la conscience collective, s'écarte de Hobbes et emprunte à Rousseau la possibilité qu'émerge une volonté générale susceptible de dépasser la simple addition des volontés particulières et de s'orienter vers quelque chose comme un bien commun. La référence à la domination a pu pourtant être évoquée aussi non pour fonder la nécessité de l'État, mais au contraire pour mettre en cause la violence de l'État, supposé protecteur, au nom du respect de l'autonomie des individus. Associée au libéralisme historique, surtout dans ses expressions les plus radicales, telles que les a analysées par exemple Jonathan Israel, cette formule dans Radical Enlightenment, cette formule a pris appui sur une anthropologie pessimiste qui, dotant les individus optimistes, sur une anthropologie optimiste, pourrait dire confiante, si on veut, qui, dotant les individus d'une raison, leur reconnaît le pouvoir de régler eux-mêmes leurs disputes, et cela au moins dans un grand nombre de cas, sans recours à la violence physique, par le truchement de la discussion. Cette option, qui ouvre la voie à la démocratie, a trouvé historiquement son expression la plus extrême dans les mouvements anarchistes et libertaires. Enfin, la relation entre domination et violence s'est exprimée dans une autre problématique que l'on peut rappeler schématiquement de la façon suivante. Face à la violence des gouvernants, dans quelle mesure les individus et les groupes sont-ils légitimés à recourir eux-mêmes à la violence pour conquérir ou reconquérir leur autonomie ? J'ajouterai que cette question, qui était très présente dans les débats sociologiques et politiques des années 1960-1970, encore habitée par le souvenir des luttes antifascistes et par celui plus proche des guerres coloniales, mais aussi confrontée à l'expérience des guerres impérialistes, comme la guerre du Vietnam, s'est trouvée, pour des raisons qu'il serait trop long d'examiner ici, progressivement écartée de la problématique des sciences sociales. À partir, disons, de la première moitié des années 1980, la question de la révolte et de la violence légitime comme moteur de l'histoire s'est trouvée en quelque sorte frappée d'interdit, ce qui a d'ailleurs contribué à mettre à l'écart le concept de domination. La façon dont cette question tend à réapparaître aujourd'hui est sous ce rapport fort intéressante. Elle invite à se ressaisir de la lutte contre la domination, mais en la séparant de la violence. D'où l'importance de thèmes comme ceux de la résistance, de la désobéissance civile, de la dénonciation dans l'espace public ou de la création de zones d'autonomie qui visent à établir un nouveau compromis entre la critique de la domination et les exigences de transparence et de discussion qui sont considérées dans cette optique comme une norme indépassable de la politique dans son acception démocratique. Toutefois, ces tentatives peuvent peiner à convaincre quand, dans leur souci d'écarter la violence, elles font l'impasse sur les rapports de force qui, sans engager nécessairement la violence physique, supposent néanmoins l'opposition entre des adversaires dont chacun entend faire plier la volonté de l'autre et qui dispose de moyens asymétriques pour parvenir à leur fin. La critique du capitalisme et des formes de violence symbolique. La critique de la domination ne s'est pas limitée toutefois à la critique de l'État autoritaire exerçant une violence physique directement ou par l'intermédiaire d'institutions disciplinaires telles que prisons, hôpitaux, psychiatriques, asile pour handicapés et plus généralement au sein de ce que Irving Goffman appelle des institutions totales. Depuis le XIXe siècle, la notion de domination a été progressivement évoquée pour porter la critique sur un grand nombre d'autres domaines d'objectivité où les acteurs sont libres de leur mouvement et formellement autonomes. Cela vaut au premier chef dans la tradition marxiste pour les relations de travail et de propriété sur lesquelles repose le capitalisme, mais aussi pour les relations qui s'instaurent entre les genres et au sein de la famille, avec la critique de la domination patriarcale et plus généralement de la domination masculine, ou encore des formes de domination qui concernent l'orientation sexuelle. Ces déplacements de la notion de domination n'ont pas rompu les liens entre ce concept et la question de la violence. Mais ils ont conduit à donner au terme de violence une extension beaucoup plus large. À côté de la violence physique et de la coercition s'exerçant sur les corps, qui peuvent assez facilement être repérés et dénoncés, ont été mis en cause des modes de domination prenant appui sur ce que l'on peut appeler, en empruntant le terme à Pierre Bourdieu, différentes formes de violence symbolique. Or, cette dernière, se trouvant incorporée aux catégories, aux épreuves et aux formats institutionnels sur lesquels repose le cours ordinaire de la vie, tend à se confondre avec l'ordre des choses et à être dotée d'une sorte d'évidence naturelle qui semble la rendre acceptable par ceux-là même qui la subissent. Il s'ensuit que sa mise en lumière suppose des opérations complexes de dévoilement. On doit ainsi à la critique marxiste du capitalisme d'avoir montré que dans un régime politiquement libéral, supposé garantir les libertés individuelles, serait-il impeccable sur le plan procédural, se maintient une forme de violence qui s'exerce par des moyens formellement pacifiques, comme dit, ça veut dire entre guillemets, comme dit Max Weber, du capitalisme, à propos du capitalisme, dont témoigne l'exploitation du prolétariat. Mais s'agissant d'expliquer comment cette exploitation peut perdurer, c'est-à-dire la raison pour laquelle les exploités, qui sont le plus grand nombre, ne se révoltent pas contre le petit nombre de ceux qui les exploitent, la tradition marxiste a dû développer, à côté de l'analyse des modalités de l'exploitation, dans et par le travail, une analyse de formes de domination idéologique incorporées au droit, à la morale, aux routines de la vie quotidienne et à la philosophie. Enfin, particulièrement à partir des années 1920, au sein de l'école de Francfort et chez Karl Mannheim, aux sciences sociales elles-mêmes. On remarquera d'ailleurs que c'est sans doute un trait assez général des théories de la domination, surtout dans leur forme contemporaine, que de s'intéresser moins aux mouvements de rébellion ou de révolte qu'aux périodes durant lesquelles les acteurs sociaux paraissent tolérer l'oppression qu'ils subissent. Les théories de la domination sont rarement des théories de la révolution, ou même du changement, même si elles visent, en dévoilant les sources cachées de la domination, à susciter l'indignation et la révolte des opprimés. Elles font peu de place aux événements et même aux affaires et aux controverses en tant que moment de recomposition et de mise en cause des rapports de domination. Elles tentent, d'autre part, à rejeter dans le domaine de l'utopie, c'est-à-dire hors du champ des sciences sociales dites « sérieuses », la possibilité même d'un monde émancipé. Les théories de la domination sont rarement des théories de l'émancipation, et ce trait a été de plus en plus marquant à mesure que les théories critiques se sont trouvées absorbées dans le champ universitaire et se sont coupées des mouvements et des luttes politiques, comme l'a pertinemment noté Razmig Kocheyan dans l'ouvrage qu'il a consacré aux nouvelles pensées critiques, hémisphère gauche. C'est ainsi que, par une sorte de paradoxe, les sociologies critiques se sont surtout données pour objet de comprendre les raisons pour lesquelles les acteurs ne se révoltent pas, alors que les analyses développées depuis ces sociologies suggèrent qu'ils auraient toutes les raisons de le faire. À l'inverse, ce sont surtout des sociologies plus conservatrices qui, souvent en invoquant des motifs psychologiques individuels, comme l'envie ou le ressentiment, ont entrepris d'expliquer les causes des révoltes et des révolutions. Je pense bien sûr à quelque chose comme l'ouvrage de Ted Gurr. C'est sans doute parce qu'elle est venue à la sociologie depuis la philosophie politique que la notion de domination a posé à notre discipline des problèmes auxquels il ne lui a pas été facile de faire face avec les outils qui sont habituellement les siens. J'évoquerai maintenant trois d'entre eux. Le premier est d'avoir à se détacher des observations empiriques qui sont toujours situées pour prendre un point de vue global sur ce que l'on peut appeler des ordres sociaux. Le second problème est de susciter des analyses qui, tout en prenant appui sur des descriptions, assument une dimension normative, au sens où elles sont toujours associées à un jugement porté non seulement par les acteurs sociaux, mais aussi par le sociologue lui-même, sur les phénomènes qu'il décrit. Une troisième question problématique concerne l'extension qu'il convient de donner à l'usage de la notion de domination. Donc, premier problème, domination versus pouvoir. Ce que le sociologue observe sur le terrain, ce sont rarement des relations de domination, mais des relations de pouvoir. Le pouvoir est du domaine du faire-faire. On peut attester la présence d'une relation de pouvoir chaque fois qu'un acteur, soit à titre personnel, soit plus souvent en se réclamant d'une instance collective, institution ou organisation investie d'une autorité, n'accomplit pas lui-même une action, mais demande ou commande à un autre d'accomplir un certain acte. Cela, qu'il le fasse directement pour son avantage personnel, qu'il justifie ses exigences par référence à un bien commun, ou encore qu'il invoque le bien de celui-là même dont l'obéissance est exigée, comme dans le cas des relations de pouvoir entre adultes et enfants. Le fait d'exercer un pouvoir ou de se soumettre à un pouvoir n'échappe pas à la conscience des acteurs, et les relations de pouvoir sont le plus souvent visibles aux yeux d'un observateur. Le pouvoir peut donc facilement faire l'objet d'une sociologie empirique. Observable, les rapports de pouvoir sont aussi en nombre de cas inscrits dans des formats préétablis, eux-mêmes mémorisés sous forme de coutume ou consignés dans des textes comme le sont les textes juridiques ou les autres genres de règlements. Le monde social est bien, pour le dire en termes foucauldiens, tissé de micro-pouvoirs. Pour passer de l'observation de ces relations de pouvoir à l'identification d'une domination, il faut changer d'échelle, en allant d'un côté vers des échelles plus individuelles et de l'autre vers des échelles plus globales. À l'échelle des subjectivités, la mise en cause d'une domination pose la question du consentement. Parler de domination suppose que ceux sur qui s'exerce un pouvoir se conforment aux exigences du donneur d'ordre parce qu'ils subissent une contrainte ou craignent une sanction, et cela même s'ils semblent obéir de plein gré. Il peut s'agir de sanctions explicites, mais aussi, et c'est plus vraiment souvent le cas, de sanctions ou de menaces diffuses, comme par exemple la crainte de perdre son emploi ou simplement de faire l'objet d'une mise à l'écart ou d'un rejet par d'autres dont on attend la reconnaissance. Comme l'ont montré de nombreuses études de psychologie sociale, la peur d'être seul, de ne pas être suivi par d'autres, c'est-à-dire la peur de se tromper, constitue un puissant facteur de conformisme. On touche ici du doigt à une des difficultés que pose l'usage de la notion de coordination, souvent utilisée par l'analyse économique des organisations quand elle ne s'interroge pas sur les forces mises en œuvre pour obtenir la coordination effectivement constatée entre les actions d'un grand nombre d'acteurs mis au service des intérêts d'une administration, d'une organisation ou d'une entreprise. On touche là aussi, bien sûr, à l'un des axes majeurs de la mise en cause par Marx du semblant d'autonomie individuelle, notamment dans le domaine du travail, dont se réclame le libéralisme. Le problème pour la sociologie est alors qu'il ne suffit pas de suivre les acteurs, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute de leurs plaintes et de constater leur apparent consentement, pour décider si l'on est ou non en présence d'effets de domination. Pour de nombreuses analyses critiques, souvent au confluent de la psychanalyse et d'une sociologie ayant intégré des approches marxistes, développées d'abord dans l'école de Francfort, puis aussi, par exemple, dans le champ des études bourdieusiennes, l'expérience de la domination peut avoir un caractère relativement inconscient. Les acteurs ayant intériorisé, voire incorporé les forces et les contraintes qui sont au principe même de leur exploitation et de leur soumission, le sociologue de la domination doit justifier de sa capacité à dévoiler les dispositifs, à la fois objectifs et subjectifs, sur lesquels reposent leurs assujettissements et leurs illusions. Cette opération induit un second changement d'échelle qui exige aussi une distance par rapport aux situations directement observables, mais pour se déployer cette fois à un niveau surplombant. Il consiste à prendre sur la réalité sociale un point de vue qui est celui de la totalité. Depuis ce point de vue, la domination se dévoile quand on peut l'associer à des dispositifs ou à des structures dont les effets, très généraux ou même globaux, se déploient en tout point, mais de façon différenciée selon le domaine envisagé. Pour identifier une forme de domination, l'analyse doit donc prendre appui sur des instruments de totalisation et sur des catégories, comme par exemple celle de classe dominante et de classe dominée, ou celle de genre dominant ou dominé, permettant de rapprocher des facteurs d'asymétrie distribués dans l'espace social. Or, ces derniers, pris à leur valeur faciale, paraissent diverses et indépendants les uns des autres parce qu'ils sont ancrés dans des univers différents : usines, écoles, hôpitaux, familles, cours de justice, etc. À la différence des sociologies attachées à décrire différentes dimensions de la vie sociale et différentes manifestations du pouvoir, dans ce qu'elles ont chaque fois de spécifique, l'analyse des effets de domination s'attache donc à les intégrer aussi dans une totalité cohérente et à mettre en lumière la façon dont elles font système. Mais comme j'ai essayé de le montrer dans un ouvrage récent, Énigmes et complots, ces entreprises de totalisation, qui sont pourtant loin d'être infondées, ont dû néanmoins faire face à des accusations prétendant les rapprocher des théories du complot, puisqu'elles conduisaient à dévoiler une connivence implicite entre des acteurs ne se reconnaissant pas nécessairement une solidarité explicite. En se réclamant souvent de l'épistémologie popérienne, ces accusations ont soutenu des offensives intellectuelles visant à n'accorder un label de légitimité scientifique qu'aux sociologies de l'action individuelle volontaire, comme dans l'individualisme méthodologique ou les théories du choix rationnel, ce qui évidemment liquidait la possibilité même de mettre en lumière des effets de domination. Les orientations critiques de la sociologie, sociologie critique et sociologie de la critique. Une seconde particularité de la notion de domination est d'être presque toujours critique et d'être par là solidaire de prise de position normative. Je dis « presque toujours » parce qu'il existe dans les sciences sociales un courant qui se réclamant souvent de Pareto ou de Mosca met l'accent sur la distinction entre des élites appelées à commander et des masses destinées à obéir. Dans ces conceptions, la domination des masses par les élites est considérée à la fois comme ayant un caractère quasi naturel, elle serait présente dans toutes les sociétés, et comme nécessaire parce que les membres de ces élites posséderaient seuls la capacité à gouverner, ce qui a d'ailleurs permis des passages entre ces positions et des courants eugénistes. Il est certes possible, depuis des positions de ce genre, de développer un certain type de critique sociale. Mais ce dernier ne concerne pas la domination en tant que telle, il met l'accent sur l'exigence de circulation des élites, comme dit Pareto. Ceux qui exercent la domination doivent être réellement les meilleurs et non devoir leur position dominante à un privilège usurpé. Dans cette optique, les luttes pour l'exercice du pouvoir sont donc considérées comme des processus de sélection permettant aux vraies élites de faire valoir leur supériorité. Toutefois, à l'exception de ces courants imprégnés de darwinisme social, la référence à la domination est toujours critique, même quand l'exigence de rigueur descriptive semble l'emporter sur les accents pamphlétaires. Cela vaut pour Max Weber, à qui l'on doit certaines des analyses les plus approfondies de différents modes de domination et des formes de légitimation sur lesquelles il repose. Max Weber, conservateur résigné sur le plan politique, considère pourtant la modernité, particulièrement dans ses dimensions capitalistes et bureaucratiques, de façon très critique, comme l'a bien montré Michael Lowy dans un ouvrage récent, « La cage d'acier », portant sur les affinités entre Marx et Weber. La tension est manifeste dans l'œuvre de Weber entre d'un côté des descriptions qui se veulent objectivistes et de l'autre la relation déchirée et pessimiste qu'il entretient à la modernité, comme par exemple lorsqu'il définit le capitalisme comme un esclavage sans maître, c'est-à-dire comme un système de domination à la fois absolu et impersonnel. C'est donc ce va-et-vient entre des positions difficiles à concilier qui caractérise non seulement les sociologies qui utilisent la notion de domination, mais aussi plus généralement les sociologies qui accordent une place centrale aux opérations critiques. Soit d'un côté, la description des situations présentes dans leur diversité, de l'autre, le double mouvement allant d'une part vers la subjectivité des acteurs et de l'autre vers l'ordre social considéré comme une totalité. Enfin, des analyses qui envisagent de façon critique à la fois l'ordre social global et la façon dont cet ordre modèle un certain type d'être humain et le rend en quelque sorte étranger à lui-même. L'effort pour associer ces différents mouvements va de pair, particulièrement chez les classiques et particulièrement en Allemagne, comme l'a bien montré Aurélien Berland dans l'ouvrage qu'il a consacré récemment à Tönnies, Zemel et Weber, avec un projet dont les dimensions sont à la fois sociologiques, historiques et philosophiques. Il s'agit de diagnostiquer le présent, selon l'expression qui sera reprise au cours des années 1960 par Michel Foucault pour caractériser son propre programme de recherche. Chez ceux qui l'ont mise en œuvre, cette entreprise critique vise donc à saisir les caractéristiques de l'époque actuelle dans ce qu'elle a de négatif, à en dévoiler les contradictions, ou comme le revendique aujourd'hui, par exemple, Axel Honneth, à en décrire les pathologies, thème, comme vous savez, également très présent chez Durkheim. L'orientation critique constitue par là sans doute l'un des lieux où se donne à voir le plus nettement la position complexe des sciences sociales par rapport à une conception positiviste de l'activité scientifique caractérisée par un postulat d'indépendance entre le sujet de l'observation et l'objet observé. D'un côté, la sociologie ne peut abandonner complètement ce postulat sans risquer de perdre toute spécificité, toute autorité et de se confondre avec la multiplicité des discours qui accompagnent la performation du monde social, discours dans lesquels une pluralité d'acteurs, individuels ou collectifs, engagent leurs intérêts et leurs désirs concurrents. C'est la raison pour laquelle elle s'énonce depuis un laboratoire, considéré bien sûr non comme un lieu ou comme un dispositif organisationnel, mais comme un ensemble de contraintes qui visent précisément à opposer une résistance méthodique à la simple expression des intérêts et des désirs de celui qui mène l'enquête. Mais d'un autre côté, la sociologie ne peut ignorer que son objet est composé d'êtres humains considérés non dans leur dimension biologique, mais précisément en tant qu'ils sont capables de réflexivité. Or, cette capacité de réflexivité se manifeste par excellence dans l'attitude critique, comme tentative pour se ressaisir du monde social au lieu de s'y abandonner dans la passivité. Le fait de se livrer à la critique, qu'il s'agisse des multiples critiques locales qui s'inscrivent dans le cours ordinaire de la vie sociale, ou de critiques prétendant à une portée plus large, est loin d'être une spécificité des sociétés modernes. C'est dire en passant la méfiance avec laquelle il convient d'accueillir certaines tentatives actuelles visant à reconstruire le grand partage entre nous, les occidentaux ou les modernes, et les autres, en prenant appui sur l'opposition entre des sociétés qui seraient fondées sur la réflexivité, les nôtres, et les sociétés des autres, qui seraient toujours livrées à l'archaïsme de la croyance aveugle. L'activité critique constitue, au contraire, l'un des traits constitutifs de toute vie sociale, toujours tissée de disputes au cours desquelles s'affrontent et se répondent critiques et justifications, et qui peut être envisagée sous ce rapport, au moins métaphoriquement, comme la scène d'un procès. Face à cette activité critique incessante, le sociologue peut adopter deux positions qui ne sont pas exclusives et qui peuvent correspondre à deux moments de la recherche. La première consiste à la prendre pour objet de ses descriptions et de ses analyses. Il fera alors ce que l'on peut appeler une sociologie de la critique, notamment en étudiant les affaires qui ne cessent de travailler le monde social et dont l'affaire Dreyfus constitue en France le paragone, et en cherchant à modéliser la forme affaire en tant que forme sociale spécifique. Adoptant une attitude de neutralité face aux disputes au cours desquelles se croisent différentes critiques, il s'attachera à en donner la description la plus complète en se soumettant à des contraintes de méthode, ce que j'ai appelé le laboratoire. Il cherchera notamment à respecter une exigence de symétrie en accordant la même attention aux différentes expressions critiques et en distribuant également entre elles ses capacités de compréhension et, quand il y parvient, d'empathie. Il faut bien noter que, ce faisant, il adoptera une posture qui pourrait paraître très étrange, voire pathologique, s'il la mettait en œuvre en tant qu'acteur ordinaire de la vie sociale. Les acteurs sociaux ne sont-ils pas toujours sommés par les autres de prendre position et ne ressentent-ils pas aussi souvent une sorte d'obligation personnelle qui les pousse à s'engager, que ce soit en proposant des justifications ou en formulant des critiques, c'est-à-dire en portant des jugements. Le sociologue serait ainsi le seul être social pour qui le recours à la normativité serait en quelque sorte frappé d'interdit si cette mise entre parenthèses, comme dit la phénoménologie, ne correspondait pas qu'à un moment particulier de la recherche. En témoigne le fait que, qu'il le veuille ou non, le produit de son activité de chercheur, consigné dans un rapport, fera très probablement retour dans le monde social où il sera réapproprié par d'autres et réinterprété en fonction de leurs intérêts, de leurs désirs. Dans la mesure où, non seulement il prend pour objet des acteurs réflexifs, mais aussi parce qu'il n'est pas enfermé dans une tour d'ivoire mais s'adresse à eux, le discours sociologique est destiné à rentrer dans des boucles de réflexivité. Les descriptions proposées par le sociologue seraient-elles les plus avisées et les plus prudentes, exerceront donc à leur tour des effets qui, à terme, pourront modifier l'objet qu'il a entrepris de décrire. Il s'ensuit que l'entreprise de description minutieuse des cycles de justification et de critique qui interviennent dans le monde social n'exclut en rien la possibilité d'engager la sociologie elle-même dans le champ de la critique. Ce faisant, le sociologue interviendra à son tour dans les disputes, cette fois en prenant appui sur les méthodes de sa discipline en tant que métier pour appuyer ou contester certains arguments. On peut dire qu'alors il pratiquera une sociologie critique ou, pour reprendre les termes de Michael Bavoy, une sociologie publique. Le recours à la notion de domination, qui est, on l'a vu, éminemment critique, est solidaire de ce type d'engagement. Les appuis normatifs de la sociologie critique ou de la critique sociologique. Mais dans la mesure où la critique a toujours un horizon normatif, la question qui se pose alors est celle des positions normatives qui sont susceptibles de soutenir le diagnostic critique quand il est formulé dans le langage de la sociologie, c'est-à-dire sous une forme compatible avec des exigences de véridicité et de réfutabilité que revendiquent les sciences sociales. Elle enferme une tension qui peut être schématisée de la façon suivante. D'un côté, le discours sociologique, s'il veut conserver l'autorité spécifique que revendiquent les sciences sociales, ne peut pas porter des jugements critiques directement indexés sur les ressources normatives qu'engagent les acteurs sociaux dans leur lutte, qu'elles soient politiques, spirituelles ou morales, c'est-à-dire celles-là même qu'il prend pour objet. Mais d'un autre côté, une sociologie critique doit être en mesure de retraduire dans ses propres termes les insatisfactions et les résignations des acteurs de façon à les leur restituer à un niveau plus élevé de généralité, facilitant leur expression et leur mise en partage. C'est à ce prix qu'elle peut se dire réflexive. Les théories critiques se nourrissent donc des critiques ordinaires, même si elles les élaborent ou les réélaborent différemment, les reformulent et sont destinées à effet retour, puisqu'elles ont pour visée de rendre la réalité inacceptable et par là d'engager les personnes auxquelles elles s'adressent dans des actions qui doivent avoir pour résultat d'en changer les contours. Une relecture des traditions sociologiques qui incorpore une dimension critique permettrait sans doute d'identifier les principaux compromis qui ont été forgés pour faire tenir ensemble ces différentes exigences. Soit d'une part la description des aspects négatifs de l'ordre social existant en relation avec les revendications du groupe opprimé, et de l'autre la recherche de points d'appui normatifs supportant une prétention à l'université, ou au moins assez généraux pour soutenir une métacritique de la domination prenant le point de vue de la totalité. Un premier ensemble de possibilités, exploité surtout par la philosophie sociale et par la sociologie allemande, consiste à tirer un parti à la fois sociologique et normatif d'une anthropologie philosophique. La capacité des êtres humains à vivre en société sera alors associée à l'existence chez tous les êtres humains de propriétés et de capacités qui pourront être spécifiées différemment selon l'anthropologie considérée. Par exemple, la rationalité, la capacité à communiquer en se soumettant à des exigences de pertinence chez Habermas, la sympathie pour la souffrance d'autrui, la reconnaissance chez Axel Honneth, la pratique humaine vraie chez Lukács par opposition aux relations réifiées, etc. La critique consistera à montrer en quoi l'ordre social existant ne permet pas aux membres ou à certains d'entre eux de réaliser pleinement les potentialités constitutives de leur humanité. La conception de la société satisfaisante qui dérive de cette critique est celle d'une société sans reste. Alors que l'ordre social existant peut être critiqué en tant qu'il exclut, exploite, opprime, méprise, aliène, etc., ces constructions doivent une grande part de leur force critique au fait de tabler sur une commune humanité et par là d'enfermer des exigences d'égalité de traitement entre les membres d'une même société. Mais elles peuvent être étendues à l'humanité dans son ensemble ou, comme l'ont montré nombre de travaux des 30 dernières années, qui ont tiré parti de la critique écologique et des débats autour des animaux, et notamment ceux de Bruno Latour, à des êtres non humains, tels que animaux, ou même, voire sites naturels, dont on exige la protection et la patrimonialisation. Mais le recours à une anthropologie philosophique n'est pas le seul soutien de la sociologie critique. D'autres possibilités consistent à critiquer un certain ordre social en prenant appui sur les valeurs mêmes dont cet ordre proclame la reconnaissance en principe et qu'il ne cesse de transgresser en pratique. La critique mettra alors l'accent, comme c'est souvent le cas chez Pierre Bourdieu, sur le différentiel entre l'officiel et l'officieux, ou encore prendra le chemin d'une critique du droit dont on jugera qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus en accord avec l'état des relations sociales et qu'il n'enferme pas ou plus le genre de normativité auquel adhèrent en fait les acteurs sociaux. Une autre orientation de la critique sociologique pourra consister à se rapprocher plus près des personnes et des situations où elles sont plongées dans le cours de la vie quotidienne. Souvent inspirée par le pragmatisme américain et particulièrement par John Dewey, elle mettra surtout l'accent sur une normativité procédurale et aura pour principal objectif de dessiner les contours d'un ordre social dans lesquels différents points de vue, soutenus par des enquêtes, peuvent se confronter de façon à rendre exprimables et acceptables des expériences singulières associées à différentes formes de vie. Mettant l'accent sur la créativité de l'agir, la critique prendra alors pour cible les formes politiques dans lesquelles ces expériences et ces enquêtes sont entravées par l'exercice d'un pouvoir autoritaire. Les orientations critiques dont je viens de donner un signalement schématique ont en commun d'incorporer au moins implicitement des a priori existentiels et des exigences morales. Il existe pourtant un autre chemin, emprunté notamment par les sociologies d'inspiration marxiste, qui mettent entre parenthèses les références morales, ou prétendent le faire, entendent prendre appui pour l'essentiel sur le dévoilement de contradictions immanentes propres à un certain ordre social ou d'extension plus large. Dans ce cas, la critique dérive du constat ou de la prédiction que l'ordre considéré ne peut ou ne pourra se maintenir parce qu'il n'enferme pas les ressources nécessaires pour résoudre ses propres contradictions et se réformer. Cette option, qui a joué un grand rôle dans la critique du capitalisme, repose sur des descriptions à la fois sociologiques, économiques et historiques et s'ouvre sur un horizon révolutionnaire. Elle est prolongée aujourd'hui par des analyses qui poursuivent la critique du capitalisme en prenant appui sur des arguments d'ordre écologique. Pour un usage opératoire de la notion de domination. Le dernier problème, parmi ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, a trait à l'efficacité opératoire de la notion de domination et aux questions que pose son usage au cours des recherches empiriques. Dans quel cas est-il approprié de considérer qu'une société, une communauté politique, un groupe sont soumis à une domination? Dans quel cas peut-on dire d'un acteur individuel ou collectif qu'il est dominé ou dominant? Comment interpréter une situation dans laquelle des relations de pouvoir sont pourtant manifestes en termes de domination? Comment échapper à l'alternative consistant soit à restreindre l'usage du concept de domination aux situations marquées par l'application de la violence physique pour soumettre les opposants, soit au contraire à l'étendre à toutes les situations dans lesquelles une asymétrie peut être constatée ou même dans lesquelles certaines actions sont privilégiées au détriment d'autres possibles latéraux, mais sans susciter un niveau élevé de plainte ou de protestation. Dans le premier cas, les situations de domination s'avèrent assez spécifiques et, au moins dans les sociétés se réclamant du libéralisme politique, plutôt cantonnées dans des espaces réservés, comme les commissariats de police, par exemple, auxquels les sociologues n'ont d'ailleurs pas facilement accès, ou les lieux de privation de liberté en général. Dans le second, l'extension donnée à la notion de domination est telle qu'elle tend à se confondre avec les contours mêmes de la vie sociale. On peut considérer, bien sûr, que toute société se déploie sous un certain régime de domination, en sorte que la mise à bas d'un certain régime de domination aura nécessairement pour conséquence l'émergence d'un autre régime au sein duquel une autre forme de domination sera non moins patente. Mais une position de ce type tend à priver le concept de domination d'une grande partie de sa substance et à le dépouiller de sa cohérence, c'est-à-dire de son orientation critique. Si la domination est et sera toujours ici et partout, à quoi bon la dénoncer? Pour renforcer le caractère opératoire de la notion de domination, il convient donc de se donner un cadre permettant d'en moduler les usages et d'identifier le degré auquel des situations, des états de société et des ordres politiques déterminés peuvent donner lieu à des descriptions mobilisant ce concept, et aussi de renouer les liens qu'il entretient avec une autre notion que la sociologie a moins empruntée, sans doute parce qu'elle semble, plus encore que celle de domination, habitée par des présupposés normatifs et plus précisément progressistes, et cette notion est celle d'émancipation. Je voudrais donc maintenant proposer de façon malheureusement trop schématique une analyse de la domination qui laisse ouverte la possibilité de son contraire, c'est-à-dire d'une émancipation. Elle repartira de l'étude des opérations critiques telles que l'a proposée la sociologie de la critique, en mettant de façon assez classique l'accent sur les tensions qui se manifestent quand les opérations critiques croisent d'autres opérations qui sont, quant à elles, d'origine institutionnelle. Mon intention n'est pourtant pas de m'engager à bras-le-corps dans une critique radicale des institutions en tant que source principale de violences symboliques, mais de les envisager d'abord en tenant compte de certaines de leurs propriétés les plus générales qui les rendent indispensables à toute vie sociale. C'est en prenant appui sur cet arrière-fond institutionnel qu'il sera possible ensuite de déterminer ce en quoi les opérations institutionnelles peuvent être génératrices de domination et de violence. Institution versus contestation, qui peut qualifier les états de choses? Donc, en premier lieu, une défense des institutions. La notion d'institution occupe en sociologie une position assez étrange. Il s'agit d'un côté d'un des concepts fondateurs de notre discipline. Mais d'un autre côté, le concept d'institution fait assez rarement l'objet d'une tentative de définition, comme s'il allait de soi, bien qu'il soit utilisé avec des sens assez différents selon le contexte où il apparaît. Pour chercher à le préciser, je partirai d'une position originelle, bien sûr hypothétique, mettant l'accent sur l'incertitude relative dans laquelle sont plongés les acteurs sociaux quand, au cours de leurs disputes, ils sont amenés à qualifier les états de choses dans lesquels ils se trouvent engagés. Cette incertitude est d'ordre à la fois sémantique et déontique. Elle concerne ce qu'il en est de ce qui est, et indissociablement ce qui importe, ce qui a valeur, ce qu'il convient ou non de respecter. Je poserai qu'aucun acteur ne détient l'autorité nécessaire, ni d'ailleurs sans doute, si on le considère isolément, le pouvoir, de faire partager aux autres sa définition de la situation. Et cela pour la raison simple qu'ayant un corps, il est nécessairement situé. Il est situé dans l'espace et dans le temps, comme nous l'enseigne la phénoménologie. Il est situé par rapport à une position sociale et à la distribution des biens convoités, comme nous le montrent la sociologie et l'économie. Il est situé aussi, nous dit la psychanalyse, par rapport à l'espace psychique de ses désirs, de ses pulsions, de l'expérience de son corps propre, etc. Chacun étant situé, ne peut avoir sur le monde qu'un point de vue. Or, la confrontation de points de vue divergents, qui devient manifeste dans le cours des disputes, comporte le risque d'un basculement dans la violence et est très généralement source d'inquiétude. Et cela particulièrement lorsque la montée des divergences par rapport à la définition de la situation ou l'accroissement de la distance entre les acteurs concernés enraye les ajustements de l'ordre de la pratique ou de la pragmatique à l'œuvre dans les situations d'interaction en face à face, ce qui exige le recours à une explicitation verbale des conventions sur lesquelles repose l'action. La solution institutionnelle consiste à déléguer à un être sans corps, celui précisément de l'institution, la charge de dire ce qu'il en est de ce qui est, d'une façon qui prétend se présenter comme généralement acceptable. Le rôle principal des institutions envisagé de cette manière est donc avant tout sémantique, comme l'a défendu John Searle dans l'ouvrage qu'il leur a consacré. Les institutions mettent en correspondance les états de choses avec des formes symboliques très diverses, telles que règles, schémas, catégories, modes de jugement et de sanctions, qui dans nos sociétés ont souvent une assise juridique. Elles définissent des entités et déterminent des attributions. Des institutions dépendent également les formats d'épreuves qui jouent un rôle central dans la sélection sociale et par là dans la formation et la perpétuation des asymétries et des inégalités. En ce sens, les institutions sont largement responsables de ce que l'on appelle couramment en sociologie la construction sociale de la réalité. Leur intervention diminue le niveau d'incertitude et assure à la vie quotidienne un certain degré de prévisibilité en établissant des routines et des réseaux de relations causales qui font tenir les uns aux autres les événements auxquels l'expérience est confrontée. Elles permettent aux acteurs d'être réalistes, généralement, d'ailleurs, à leur corps défendant et aussi souvent à leurs dépens, en les amenant à ne désirer sérieusement que ce qu'ils ont des chances d'obtenir. Mais on peut néanmoins mettre au crédit des institutions le fait de permettre aussi aux acteurs de stabiliser des identités qui seraient instables et fragiles si elles étaient entièrement livrées au changement incessant du cours des choses et d'assurer un certain niveau de sécurité sémantique qui est l'envers positif de la violence symbolique que les institutions exercent. Toutefois, la réalité sociale telle qu'elle se trouve construite et maintenue par les institutions, serait entièrement soumise à leur domination si les acteurs sociaux n'avaient pas accès à la critique. Or, aucune institution, aussi puissante soit-elle, ne peut définitivement faire taire la critique. Je vois à cela deux raisons principales. La première tient à la structure même des institutions. Étant des êtres sans corps, les institutions ne peuvent se manifester que par l'intermédiaire de porte-parole. Mais ces derniers, qui sont des personnes humaines ordinaires dotées d'un corps et par conséquent situées, comme nous le sommes vous et moi, ne parviennent jamais à faire taire complètement les interrogations de ceux qui sont contraints à obéir quant à la source réelle du pouvoir des représentants institutionnels, ni à juguler l'inquiétude qu'elle suscite. La question de savoir si c'est bien l'autorité de l'institution tournée vers le bien commun qui s'exprime par la bouche des porte-paroles ou s'ils ne font pas que servir leurs propres intérêts sous couvert institutionnel est donc toujours latente. Elle menace, dans les moments de crise, de se poser publiquement et de susciter une contestation qui, comme on le voit bien dans le cours des affaires, peut s'étendre de proche en proche jusqu'à gagner la société tout entière. Au cœur des dispositifs sur lesquels repose la construction sociale de la réalité, on trouve donc ce que j'appellerais une contradiction herméneutique, c'est-à-dire pas seulement une contradiction entre des interprétations divergentes, mais une contradiction qui met en péril la possibilité même, les moyens mêmes dont dépend la qualification de ce qui se passe, l'ajustement des formes symboliques aux états de choses et les effets de pouvoir qu'elles induisent. Une deuxième raison qui empêche les institutions de faire taire la critique et par là d'exercer un pouvoir de domination absolue tient au fait que la réalité, en tant que réalité construite, n'est pas l'unique horizon par rapport auquel prendraient sens toutes nos expériences. Ces dernières s'enracinent aussi dans le monde. Par monde, il faut entendre ici tout ce qui arrive, pour reprendre une formulation de Wittgenstein, et même tout ce qui serait susceptible d'arriver, ce qui renvoie à l'impossibilité de le connaître et de le maîtriser en totalité. La réalité construite, dont les institutions assurent la maintenance, est donc le résultat d'une sélection parmi la multiplicité des événements, des désirs, des questions, des attachements, des émotions qui composent le monde et dont les racines ne sont pas uniquement sociales. Celles de nos expériences qui se réfèrent à la réalité ont le privilège d'être plus faciles à verbaliser et à exprimer puisque nous disposons pour cela des termes et des qualifications stabilisés par les institutions. À partir de notre expérience de la réalité, nous pouvons émettre des critiques que l'on peut qualifier, pour dire vite, de réformistes, dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre de ce qui est déjà reconnu comme étant. Mais c'est surtout depuis celle de nos expériences qui s'ancrent dans le monde que nous pouvons porter au jour une critique que l'on peut dire radicale, au sens où elle enferme la possibilité d'autres façons de construire la réalité, c'est-à-dire de donner corps à d'autres possibles. Bien sûr, cette opération est toujours difficile et toujours coûteuse, parce qu'elle doit forger les termes et les justifications permettant de rendre audible la critique des états de choses existants au sein desquels s'enracinent les routines de la vie quotidienne. Elle peut se trouver confrontée à l'accusation d'irréalisme, de transgression, voire de folie. On l'a vu, par exemple, l'hiver dernier avec tous les débats, les disputes autour du mariage pour tous. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles cette nouvelle façon de qualifier ce qui importe se ferait souvent, en premier lieu, un chemin par le truchement des arts ou de la poésie, qui ne sont pas soumis au même degré, par exemple, que les argumentaires scientifiques ou que le discours explicitement politique, à des contraintes de justification. Sans cette possibilité de la critique et de ses expressions réformisme, mais aussi ou surtout dans ses formes les plus radicales, les institutions seraient en effet toutes puissantes et elles domineraient constamment les personnes qui leur sont assujetties. À quoi reconnaît-on une situation de domination ? L'analyse de la relation entre d'un côté les institutions et de l'autre les formes et les dispositifs critiques offre, me semble-t-il, des prises permettant d'identifier des effets de domination s'exerçant dans des contextes politiques et sociaux à différentes échelles. Ils ont pour signe extérieur une mise au pas de la critique, soit sous l'effet de la violence physique ou de sa menace, soit sous celui d'entraves portant sur les conditions minimales de la vie, comme le sont par exemple la mise au chômage orchestrée par les employeurs d'une même ville ou de même région à l'encontre d'ouvriers qui mettent en cause leurs conditions de travail et s'efforcent d'organiser des mouvements collectifs de contestation, soit sous des formes plus sophistiquées qui s'en prennent directement à la liberté d'expression, marginalisent les protestations ou déplacent les dispositifs de pouvoir en sorte que la critique formellement possible, au moins verbalement, demeure inopérante. Ces différentes façons de faire taire ou de marginaliser la critique caractéristiquent différents régimes de domination qui, tout en prenant des formes inégalement patentes, demeurent néanmoins toujours accessibles à l'investigation sociologique parce qu'ils n'échappent jamais complètement à la conscience des acteurs, même quand ces derniers paraissent les tolérer et s'y soumettre. Mais cela, à la condition de diversifier les contextes dans lesquels sont menées les observations, les entretiens et les dépouillements documentaires. On sait d'une part que les mêmes acteurs peuvent adhérer aux normes constitutives d'un ordre social quand ils sont plongés dans certaines situations, qui ont pour dire vite un caractère officiel, et en remettre en cause la validité, souvent sur un mode ironique, dans d'autres situations dites officieuses. C'est-à-dire quand ils se trouvent dans l'entre-soi, à l'écart de ceux qui exercent sur eux un pouvoir, ou même plus généralement, de ceux qui incarnent les dispositifs d'autorité institutionnelle, ce que nous avons appelé avec Laurent Thévenot dans « De la justification », les grands. L'anthropologie de la résistance, telle que l'a développée par exemple James Scott, offre de nombreux exemples qui illustrent cette plasticité. Les mêmes qui paraissent adhérer à un certain ordre social et ignorer la domination dont ils font l'objet, si on les observe dans certaines situations, peuvent se révéler tout à fait à même de réaliser la domination, c'est-à-dire la violence qu'ils subissent, quand on parvient à les rapprocher, à les approcher dans d'autres contextes situationnels et à gagner leur confiance. Si bien qu'il convient peut-être d'interpréter leur apparente acceptation des normes sociales dominantes dans les situations officielles ou publiques en faisant moins appel à la thématique de l'illusion ou de l'inconscient qu'à celle du réalisme. D'autre part, l'étude des ressorts et effets de domination exige de porter attention non seulement aux dominés, mais aussi ou peut-être surtout à ceux qui se trouvent en position dominante. L'exercice du pouvoir est rarement aveugle, même quand ceux qui en ont la charge paraissent adhérer à des idéologies dominantes visant à minorer et à justifier les inégalités dont ils bénéficient et assurent la maintenance. On peut en effet penser, comme l'a défendu Brian Turner, que les idéologies dominantes ont moins pour objet la soumission des dominés, qui peut être obtenue par d'autres moyens, que la disciplinarisation des catégories dominantes elles-mêmes. Leurs membres doivent en effet justifier leurs privilèges, y compris à leurs propres yeux, surtout dans les ordres sociaux, marqués par une tension entre un idéal égalitaire ou formellement démocratique et des situations de fait massivement inégalitaires, notamment sous le rapport de l'accès à la décision. Néanmoins, l'exercice de la gouvernance prend appui sur une intelligence du pouvoir qui promeut l'invention et la mise en œuvre de techniques de contrôle et de gestion animé d'une attention méticuleuse aux détails de la vie des dominés dans ce qu'elle a de plus quotidien et particulièrement aux indices d'une propension à la résistance. Certes, ces techniques de contrôle ont souvent un caractère conjoncturel et local et ne sont pas nécessairement coordonnées. À la différence des idéologies, elles peuvent faire l'économie de la montée en généralité vers des principes fondateurs. Et elles sont sans doute d'autant plus efficaces qu'elles prennent le détour de l'administration des choses pour contenir les personnes, comme l'a montré par exemple l'analyse menée par Béatrice Hibou du rôle des mécanismes financiers dans la Tunisie de Ben Ali avant les journées révolutionnaires de janvier 2011. Mais on pourrait mentionner aussi des exemples moins frappants, comme le sont par exemple aujourd'hui dans notre société les utilisations disciplinaires et obsessionnelles de l'exigence de sécurité qui a tous les dehors de l'impartialité. Néanmoins, ces techniques de contrôle laissent toujours des traces, et particulièrement des traces écrites, dont le sociologue peut se saisir pour, en les rapprochant, mettre en lumière leur caractère systématique et forger une interprétation de leur finalité tacite. C'est ainsi, par exemple, que dans un mode de domination que l'on peut qualifier de gestionnaire, où s'exerce un gouvernement par les normes, dans les termes de Laurent Thévenot, ou par les instruments, dans ceux de Pierre Lascoum et Patrick Le Gallès, les techniques de management venues des grandes firmes capitalistes et les techniques administratives qui les retraduisent dans l'idiome de la gouvernance étatique ne se réclament de rien d'autre que d'exigences comptables ou de palmarès de type benchmarking auquel je faisais allusion tout à l'heure, les références qui ont été rappelées d'une espèce de petite vidéo qui circule sur Internet où je critique l'excellence. Dans un ordre social de ce type, les gouvernants font donc moins appel à une idéologie au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens d'un formatage des désirs visant à les orienter dans un sens déterminé, qu'ils ne justifient leur action par la référence à la nécessité. Ils affirment en quelque sorte vouloir la nécessité selon un rapprochement paradoxal entre pouvoir et impuissance dont Pierre Bourdieu et moi avions analysé autrefois les prémices dans la production de l'idéologie dominante. Le relativisme comme méthode de la sociologie. En guise de conclusion, je voudrais évoquer deux motifs qui ont particulièrement contribué, selon moi, à tisser les affinités électives entre la sociologie et la critique. J'appellerai le premier l'agnosticisme, ou pour être plus juste, l'agnosticisme limité et méthodologique de la sociologie. S'engager dans la sociologie suppose de mettre entre parenthèses l'adhésion immédiate à des valeurs substantielles et surtout la prétention à fonder l'ordre social sur un principe politique se réclamant d'un absolu. La sociologie constitue en cela un rempart contre la tentation actuellement de plus en plus fréquente de revenir à la théologie politique, même dans ses expressions laïcisées, quand elle invoque des entités à majuscules telles que la nation, l'État, le peuple, la loi et même la science, ou même encore, comme on le voit parfois maintenant, notre terre affublée d'union de Gaïa pour lui conférer une identité quasi divine. On accuse souvent les sociologues d'être relativistes. Plutôt que de s'en défendre, sans doute ferait-il mieux de revendiquer une posture qui est la condition même de possibilité du genre d'éclairage qu'ils entendent jeter sur le monde social. Il s'agit toutefois d'un relativisme limité, au sens où la sociologie s'ancre néanmoins dans deux axiomes qui lui tiennent lieu de règles constitutives, au sens, là encore, de John Searle. Le premier concerne la relation entre ce que Paul Ricoeur appelle la mise en intrigue et la référence à des états de choses. Tout en reconnaissant que le discours sociologique est bien un récit élaboré à partir de traces, et particulièrement à partir de ces autres récits que produisent continuellement les acteurs sociaux, notamment lors des entretiens, il suppose la possibilité, au moins formelle, de hiérarchiser différents récits sociologiques en fonction du degré auquel les traces qu'ils incorporent peuvent faire l'objet d'enquêtes et de regroupements. C'est-à-dire aussi de pondérer les critiques recueillies au cours des enquêtes et plus généralement de ne pas ordonner les propositions sociologiques en fonction de leur force critique. Le second axiome renvoie à ce que Laurent Thévenot et moi avons désigné dans De la justification par le terme de commune humanité. Il postule l'existence d'une égalité fondamentale entre les êtres humains. C'est en prenant appui sur cet axiome que sont critiquées les situations historiques et sociales au sein desquelles les effets de domination sont les plus patents, parce que la présence massive des hiérarchies et des inégalités tend à y écraser la commune humanité, ou ce qui revient au même, à la réduire au statut de principe formel, toujours trahi en pratique. La sociologie a partie liée avec le genre de pluralisme qui habite les conceptions radicales de la démocratie, parce qu'elle offre des ressources pour mettre en cause la forme d'inégalité la plus fondamentale et la plus criante, qui est l'asymétrie par rapport aux règles. C'est au premier chef, par rapport à cette asymétrie-là, que prend sens l'idée de domination, mais aussi, à contrario, celle d'émancipation. Les subalternes sont d'abord ceux qui sont censés considérer les institutions comme s'il s'agissait d'être quasi sacrés et agir en suivant les règles à la lettre, c'est-à-dire le plus souvent en obéissant à des instructions parcellaires dont ils ignorent les implications. Et dans leur cas, toute interprétation de la règle est assimilée à une transgression susceptible de sanctions. À l'inverse, les supérieurs qui se révèlent à ce titre dominants peuvent adopter une relation pratique et en quelque sorte désacraliser aux institutions, peut-être simplement parce qu'ils les font et qu'ils les incarnent. D'autre part, les objectifs qui leur sont assignés, ou plutôt qu'ils s'assignent, étant larges et vagues, ils peuvent et même doivent interpréter les règles, c'est-à-dire dans leur langage se soustraire à la règle, à la lettre de la règle, mais à condition bien sûr de demeurer dans l'esprit de la règle. Une réaction fréquente face à cette asymétrie fondamentale consiste à exiger une plus grande rigueur à l'égard des puissants. On l'a beaucoup entendu récemment, notamment à propos de l'affaire Cahuzac, afin de les obliger à se soumettre aussi de façon stricte à la lettre, aux règles qu'ils imposent aux autres. On peut qualifier cette réaction de moraliste. Elle conduit facilement vers une forme ou une autre d'intégrisme. Il existe pourtant une autre manière de diminuer les asymétries face aux règles, qui pourrait s'inspirer à la fois des courants de pensée anarchistes et pragmatistes. Elle consisterait à donner au plus grand nombre les moyens d'interpréter les règles et de justifier les interprétations qu'ils en proposent, c'est-à-dire de mettre en pratique leur capacité de réflexivité et par là d'aller dans le sens d'une émancipation. Car comme l'ont montré la sociologie et la philosophie de l'action, personne, à part peut-être les militaires lorsqu'ils défilent, ne peuvent agir en suivant étroitement des règles. Prendre le point de vue de l'extériorité, et je vous promets que ça se termine là-dessus. À côté de ce que j'ai appelé l'agnosticisme limité, un second motif relie étroitement la critique de la sociologie. Il dérive lui aussi de la position que la sociologue adopte à l'égard de son objet et engage la relation entre extériorité et intériorité. Avec l'accusation de relativisme, une autre objection est souvent faite à la sociologie et particulièrement à cette expression critique. Elle met l'accent sur le fait que le sociologue, n'étant jamais sans attache ni sans attachement, s'exprimerait toujours depuis l'intérieur d'une formation sociale, en sorte que rien ne l'autoriserait à revendiquer l'adoption d'un point de vue surplombant, et cela, moins encore, s'il est associé à un jugement. Je défendrai néanmoins l'idée selon laquelle la description sociologique serait simplement irréalisable, hormis la possibilité d'un mouvement conduisant à considérer le monde social comme on le ferait depuis une extériorité. Le projet de prendre la société pour objet afin de décrire les composantes de la vie sociale en les plongeant dans le cadre plus large où elles prennent sens fait appel à l'expérience de pensée consistant à se placer à l'extérieur de ce cadre pour le considérer dans son ensemble. Ce projet dont les sociologues de la domination offrent l'exemple le plus patent parce qu'elles sont orientées vers la totalité, préexiste néanmoins en germe dans la position sociologique quand elle est vraiment assumée, et cela même quand elle ne se veut pas explicitement critique. En effet, un cadre n'est pas saisissable de l'intérieur. Depuis une perspective intérieure, le cadre se confond avec la réalité dans son impérieuse nécessité. Sans ce dégagement vers une extériorité, la sociologue risque donc de se montrer cantonnée dans une perspective d'ingénieur social. Il aura du mal à prendre ses distances par rapport aux demandes des responsables en charge de vastes organisations, entreprises privées ou administrations publiques, qui peuvent avoir fait appel à lui pour les aider à comprendre des situations qui leur échappent. Il assumera alors une position qui est celle de l'expertise. Mais il risque, ce faisant, de retraduire dans la problématique de sa recherche les problèmes auxquels ces responsables sont confrontés et d'envisager les questions que lui pose son objet à la façon dont ils les lui sont présentés. Dans le cas de l'ethnologie ou dans celui de l'histoire, l'adoption d'une position d'extériorité peut être favorisée par la distance géographique d'un côté et temporelle de l'autre qui sépare l'observateur de son objet. Dans le cas de la sociologie, qui peut être considérée sous ce rapport comme une histoire du présent, avec pour conséquence que l'observateur est partie prenante de ce qu'il entend décrire, l'opération consistant à adopter une position d'extériorité est loin d'aller de soi et donc doit donc en quelque sorte prendre conscience d'elle-même. Cette sortie imaginaire de la viscosité du réel permet dans un premier temps de dépouiller la réalité observée de son apparente nécessité et de la traiter comme si elle était arbitraire, c'est-à-dire comme si elle pouvait être autre qu'elle n'est, ou même comme si elle pouvait ne pas être, pour, dans un second temps, lui restituer la nécessité dont on l'a d'abord dépouillée, mais dont cette opération de déplacement à modifier la teneur. Aux raisons et aux impératifs du pouvoir, on substitue l'analyse des chaînages dont dépendent dans chaque cas les choix opérés. Les formes de nécessité identifiées localement peuvent alors être rapportées à un univers de possibles, ce qui permet de faire émerger des possibles latéraux jusque-là écrasés par les urgences du présent et de les projeter dans un avenir, non pas utopique, mais concevable et même probable. Le dégagement vers une extériorité, qui peut, dans le cas de la sociologie, être considérée comme une exigence méthodologique, tend ainsi, par sa nature même, à ouvrir la voie à la critique, qui, dans ses formes les plus fondamentales, peut être caractérisée par un mouvement d'arrachement réflexif à la prégnance de la situation, ou, si l'on veut, par un mouvement de retrait. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut dire que la sociologie est toujours critique. Recherche empirique et théorie sociale. On aura compris que les remarques que je viens de faire à propos de l'expertise n'ont pas pour intention de dénigrer ou de dévaluer les nombreuses études empiriques sans lesquelles la sociologie n'existerait simplement pas. Elles visent à défendre deux causes. La première qui va de soi est celle de l'autonomie d'une recherche non entravée par des exigences ou par des programmes émanant d'instances de pouvoir, seraient-elles les mieux intentionnées ? La seconde est celle du maintien d'un lien étroit entre recherche empirique et réflexion théorique. Or, il semble que l'on assiste à la formation d'une partition qui s'est d'abord imposée dans le monde anglophone, conduisant à traiter le travail de terrain et la théorie sociale comme s'il s'agissait de deux activités séparées, exigeant des méthodes et des compétences différentes. C'est sociologie et social thought. Ce partage, à mon sens, très préjudiciable, engage la relation entre sociologie et philosophie. La sociologie empirique n'a pas pour vocation de fournir aux philosophes quelques exemples pour illustrer leurs arguments. Si la construction de schèmes théoriques peut puiser avec profit des outils conceptuels dans la tradition philosophique, elle repose avant tout sur la modélisation des activités pratiques des acteurs. On peut considérer en effet la sociologie comme une discipline qui, un peu à la façon de la linguistique, élucide et élève à un niveau supérieur de réflexivité des compétences qui sont d'abord celles des acteurs eux-mêmes. C'est donc surtout en explicitant et en modélisant ces compétences qu'elle peut se donner des schèmes théoriques dont l'épreuve de validité est toujours empirique. C'est aussi en maintenant un lien étroit entre réflexion théorique et enquête de terrain que la sociologie aura les meilleures chances de demeurer critique, c'est-à-dire de sauvegarder les relations qui, dès ses débuts, au cours de ce que l'on a appelé la première globalisation de la fin du XIXe siècle, et déjà pour répondre aux inquiétudes qu'elle suscitait, ont étroitement associé la pratique de cette nouvelle discipline universitaire aux questions et aux contestations qui s'élevaient alors depuis le terrain des pratiques sociales. Merci de votre patience.